Merci. Eh bien, ce soir, notre émission prend pour titre « Le monde est bouleversé et nous sommes en train de plonger ». Ça sera le titre, c'est le titre de l'édito d'Henri Foucrot de ce soir. 19h30, présent dans le studio, Jacques Myard, membre honoraire du Parlement et maire de Maison Lafitte. Jacques Myard, dont le dernier ouvrage paru « Quand la France se déchaînera », point de suspension, brûlot de l'année, chez JDH Éditions, à 15 euros. Mais présent par téléphone, et c'est, pardonnez-nous, cher Jacques Myard, c'est notre événement ce soir. Le général Jean Menu, pour s'exprimer et répondre à nos questions. Le général Jean Menu est général de l'armée de l'air, deuxième section, ancien chef du cabinet militaire de deux premiers ministres et ancien commandant de l'opération Épervier au Tchad. Eh bien, Henri, Jacques, je vous donne la parole.
Je vous remercie, Alain, vous êtes gentil. Alors, on a le général Menu qui est au téléphone. Je vais le saluer tout de suite.
Je vous écoute.
Alors, l'édito, comme j'ai actuellement, si vous le voulez, on a deux émissions, une qui est enregistrée. J'ai passé mon édito dessus. Je veux simplement rappeler quelques chiffres en disant que la France aujourd'hui est à 7e rang mondial avec 3300 milliards de dollars de PIB, 9 fois moins que les USA, alors qu'en 60, elle était la 4e puissance économique mondiale et ne pesait que 4,6 fois moins que les USA. Cette baisse de notre place dans le monde économique, ça vient surtout de l'entreprise, l'industrie qui perd 400 milliards de chiffre d'affaires chaque année. De 675 milliards, on est passé à 274 milliards. Donc il faut absolument qu'on retrouve notre entreprise pour retrouver notre souveraineté et notre indépendance. Donc que je vais... Mon général, vous êtes au téléphone.
Absolument, je vous écoute.
On l'entend très bien, Jean. Salut et fraternité,
bonsoir,
c'est Jacques qui te parle.
Et bonsoir Henri, salut à mes compagnons de parcours depuis 35 ans avec lesquels nous avons partagé des souvenirs communs et des options communes.
Tout à fait. Alors, vous allez participer à une partie de l'émission et d'essayer de couper la parole à Jacques Myard de temps en temps. Et puis on va arriver à vous dans quelques temps pour nous parler un petit peu de l'armement, du nucléaire, etc. Je lance Jacques Myard sur la commission d'enquête à Londres.
Oui, effectivement. Alors, il y a une commission d'enquête qui a été avec un rapporteur qui est à Londres. Ce n'est pas lui le président, mais c'est le rapporteur. Et vous savez que les commissions d'enquête ont ceci de particulier, c'est qu'elles sont rédigées par le rapporteur. Le président, bien sûr, dit ce qu'il a à dire dans une note. Mais... on n'est pas encore certain, et du moins je ne le sais pas encore, si cette commission va être votée et si elle va être publiée. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait un vote de la commission et il n'est pas impossible que certains, sous la pression de certains nombres de lobbies, disent « Non, on ne veut pas que c'est publié, elle est trop, entre guillemets, partiale, etc. » Et donc... j'ai regardé quand même un peu tout ce que dit ce rapporteur et ce sont les points qu'il a soulignés. Premièrement, il faut être clair, il a critiqué effectivement le service public médiatique, mais il est évident que nous avons besoin d'un service public médiatique.
Tout à fait.
Et qu'il ne s'agit pas de l'oublier. Mais il n'en demeure pas moins, et ça a été notamment l'une des... ça a été notamment l'une des critiques par un grand patron français sur le coût du service public, puisque, pour rien vous cacher, il coûterait le service public la bagatelle de 4 milliards d'euros, et avec des choses qui paraissent véritablement exorbitantes. 1700 euros pour une nuit d'hôtel au Majestic à Nice. Ensuite, il y a sans doute quelques conflits d'intérêts avec des gens qui ont passé des contrats avec des sociétés et qui ensuite sont allés pantoufler directement dans cette société pour gagner plus d'argent. On regarde également qu'il y a eu énormément d'appels à des sociétés extérieures pour faire un certain nombre de productions, alors même qu'on puisse se demander, mais alors, est-ce qu'en interne, ce n'était pas possible ? Et puis, il y a un déficit de 81 millions d'euros, alors que toutes les sociétés privées sont aujourd'hui, les sociétés médiatiques sont aujourd'hui en équilibre. Sans oublier, bien sûr, certaines influences politiques où il y a eu un certain nombre de personnes qui ont clairement dit qu'ils allaient s'occuper d'un tel ou d'un autre, en dépit, je dirais, de ce qui est la déontologie de la bonne information. Tout ça pour dire qu'il y a eu de surcroît des contenus un peu controversés, notamment pour un certain nombre d'idéologies pour les 15-30 ans sur le cannabis, sur aussi une cagnotte pour Adam Traoré. Bref, et on peut le dire ici, le privilège des Blancs, soi-disant. Donc tout ça fait que lorsqu'on on a suivi un peu et qu'on regarde les synthèses qui sont faites sur la toile sur cette commission, on peut se dire, on est pour le service public, mais il faut que le service public mette un peu de l'ordre dans la maison et rationalise. Et comme le disait un grand patron, lorsqu'il a repris Canal+, lorsqu'il a repris un certain nombre de sociétés médiatiques privées, il y avait des déficits, mais il a remis les choses d'aplomb. Donc, ce qui est certain, c'est que je crois qu'il serait vraiment dommage que ce rapport de la commission à l'oncle ne soit pas publié. Et je le dis très nettement, s'il y a des députés de cette commission qui doutent, ils ne sont peut-être pas d'accord sur toutes les conclusions, et bien qu'ils expriment une opinion, comme on dit, une opinion dissidente pour pouvoir avancer. Et nous souhaitons, nous, je dirais, parce que je ne suis plus à l'Assemblée, même si je souhaite y retourner et que je vais tout faire pour le faire, eh bien, il faut à tout prix que nous ayons le texte de cette commission, que nous puissions, je dirais, analyser par nous-mêmes, comme le ferait tout un tas de citoyens, la véracité et les critiques qui sont faites à cette commission, qui me paraît aller dans le bon sens, celui de donner un peu un coup de pied dans la fourmilière pour rétablir un service public que nous appelons de nos voeux et qui soit digne d'un service public.
Jacques Miard, merci. Mon général, je me tourne vers vous. On parle beaucoup aujourd'hui de dissuasion nucléaire. On parle aussi, je crois que c'est traité hier ou avant-hier, du prochain plan pour la défense. La dissuasion nucléaire, c'est quand même encore un brin de souveraineté qui nous reste. Et la situation est quand même un peu catastrophique. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dites-nous.
Je pense, je me suis déjà exprimé sur ce sujet-là, mais j'avais compris que ce n'était pas le sujet sur lequel je serais interrogé ce soir, hein, puisque lors de notre dernier contact téléphonique, je m'étais mis d'accord pour que je parle un peu de ce qui se passe actuellement en Iran.
Excusez-moi, c'est de ça qu'il faut parler, c'est la situation en Iran, c'est ce qui nous intéresse, excusez-moi.
Voilà, c'est la situation en Iran, et en particulier toutes les missions de récupération des pilotes de l'avion américain battu, qui a été quand même une opération remarquable. Alors, j'ai accepté d'intervenir parce que, bon, je m'intéresse de très très près à tout ce qui se passe, aussi bien au niveau de la guerre en Ukraine, dont on n'entend plus parler à cause de ce qui se passe en Iran, et en particulier à la lumière de mes expériences personnelles que j'ai vécues lorsque j'étais en activité au sein de l'armée de l'air, où j'ai été impliqué dans des missions de guerre à la tête de mes patrouilles de Jaguar. J'ai assumé le commandement des forces françaises au Tchad, ainsi que l'opération Épervier qui m'a conduit à faire abattre un TU-22 qui avait l'intention de bombarder N'Djamena. Et puis aussi à travers cette expérience politico-militaire que j'ai vécue lors de la première guerre du Golfe, lorsque j'étais chef du cabinet militaire du Premier ministre. Alors dans tout ça, je vis tout ce qui se passe surtout actuellement en Iran, et c'est un peu le pilote de chasse que je fus, mais que je reste dans ma tête pendant de nombreuses années. Et depuis que nous avons eu cette dernière communication téléphonique, il s'est passé un certain nombre d'évolutions, des décisions de Trump, que j'appelle des nouvelles Trumperies, qui, lorsque nous avons communiqué au téléphone, nous en étions restés à la volonté de Trump de faire en sorte de réduire et de ramener l'Iran à l'âge de pierre, comme si on pouvait ramener une civilisation et la détruire complètement. Et ensuite, brutalement, il y a eu l'arrêt des combats, ce qui est très bien, ce qui permettait de dire on va pouvoir discuter, on va pouvoir essayer de faire parler la diplomatie. Bon, il se trouve que ces tentatives de négociations ont échoué, parce que au Pakistan, tout le monde est revenu la queue entre les jambes.
Tout à fait.
Ensuite, il y a eu le blocage d'Hormuz, et ensuite, quelque chose qui m'a complètement sidéré, le jour où j'ai entendu Trump dire et proposer aux Iraniens de partager les droits de douane que l'on faisait payer aux pétroliers. Alors là, vraiment, je me suis tombé à la renverse parce que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un président de la plus grande puissance mondiale qui s'exprime ? Voilà. Donc, à travers ça, après série de Trumperies, il y a eu des problèmes qui sont liés directement à la guerre, bien sûr, et quand on a la guerre quelque part, on a des pertes, humaines, on a des pertes en matériel, et en particulier, il y a eu cette affaire du F-15 américain qui a été abattu, et le problème qui s'est posé ensuite, ça a été comment faire pour récupérer les pilotes qui se sont éjectés et qui donc sont arrivés au sol, l'un a priori sans problème, parce que c'est d'abord dans un avion biplace, c'est toujours le navigateur qui est responsable du système d'armes qui s'éjecte le premier parce qu'il est placé derrière, et ensuite une fois que ce navigateur est parti, c'est le pilote de l'avion qui s'éjecte, ce qui fait que très souvent, ils n'arrivent pas au même point au sol. Alors, il y a des questions que j'ai entendues très souvent en écoutant les émissions de télévision, diverses et variées, qui parlaient de ces événements. C'était beaucoup de personnes qui s'étonnaient que comment se fait-il que l'on puisse encore abattre un avion alors que la maîtrise de l'air est assurée au-dessus de l'Iran, après toutes les missions de bombardement qui ont été réalisées et par les Américains et par les Israéliens. Alors, c'est tout à fait légitime de se poser ce genre de questions, parce que quand on dit qu'on a la maîtrise de l'air, ça veut dire qu'on a été capable d'abord de supprimer de neutraliser toute la chasse ennemie, qu'on a réussi à supprimer ou à neutraliser les radars de surveillance, les conduites de tir des défenses solaires, soit par attaque directe, on les casse complètement, ou par brouillage. Et enfin, au sein des avions amis, c'est d'utiliser des contre-mesures qui sont à bord et qui permettent de brouiller les radars qui tournent encore ou les derniers systèmes solaires. Voilà. Mais je voudrais quand même préciser, avant de parler comment a pu se passer la récupération de l'équipage du F-15, on ne supprime jamais totalement les menaces qui peuvent régner au-dessus d'un territoire ennemi. En particulier, il ne faut pas sous-estimer l'efficacité des petits systèmes qui sont à base de missiles solaires qui sont portés par un homme, on appelle les missiles éposables, du type SAM-7 ou Stinger, et qui sont munis de l'autodirecteur infrarouge, qui sont guidés et qui vont vers la source de chaleur qui est produite par le réacteur. Et ensuite, alors quelque chose qui est ignoré, ce sont tous ces petits moyens, des petites artilleries solaires hein, qui sont au sol, et comme les canons avec multitube, comme du 23 mm ou du 30 mm ou du 14-5, les petites Kalachnikov que chaque combattant utilise, et puis à titre tout à fait personnel, dans un certain nombre de mes missions opérationnelles en Afrique, eh ben, je suis revenu avec mon Jaguar qui était percé de petits trous, et même des trous un peu plus gros, parce que j'avais été touché par cette artillerie solaire. Mais lorsque j'étais aux États-Unis pour faire l'école de guerre, j'ai eu l'occasion de discuter avec des militaires de toutes les armées qui avaient fait la guerre du Vietnam. Et certains d'entre eux avaient volé sur des F-105, des chasseurs américains. Et ils m'ont dit que parmi les 800 appareils qui avaient été engagés pendant toute la guerre du Vietnam, qui a duré 9 ans, et ben c'est plus de la moitié de ces F-105 américains avaient été abattus, non pas par des gros systèmes solaires, mais par des petits calibres. Et j'avais un de mes camarades américains qui m'avait dit qu'il avait été abattu lors d'une mission sur Hanoï, et qu'il avait passé, bien sûr, après s'être éjecté, il avait été fait prisonnier, et il avait passé quelques années dans les geôles du Vietnam. Il en était revenu profondément marqué.
Maintenant pas.
Alors, voilà. Donc, pour revenir sur cette affaire de récupération de cet équipage, Trump, dans une de ses interventions, a parlé de révélations qui avaient été faites par la presse, disant qu'il y avait deux hommes à bord de ce F-15. Effectivement, le F-15 est sorti, c'est un avion qui date quand même des années 70, hein, qui n'est pas tout à fait récent, mais qui est encore très efficace, et que le premier qui avait été récupéré, c'était le pilote, mais qui avait quand même nécessité la mise en place et l'utilisation de à peu près une vingtaine d'avions. Mais la presse américaine et la presse qui en a parlé de l'existence d'un deuxième homme, et donc c'était un biplace. Et c'était la version attaque au sol hein, qui nécessite la présence d'un pilote et d'un navigateur opérateur de système d'armes. Et le simple fait que lorsque les Iraniens ont appris qu'un pilote avait été récupéré, si on n'avait rien dit en disant « bon, il n'y a pas de problème, le pilote a été récupéré, pas de problème », mais à partir du moment où ils ont dit « oui, mais il y a un deuxième
ouais. »,
ça a justifié quand même, ça a entraîné les Iraniens à prendre la décision d'essayer de coincer ce deuxième type. Hein, parce que pour eux, c'était du pain béni de pouvoir le récupérer,
de
l'exposer, de l'humilier pour bien montrer que les États-Unis étaient incapables de récupérer un pilote qui avait été abattu en plein milieu de l'Iran. Alors, bien sûr, et là, c'est là que il faut quand même dire que les Américains ont monté une opération remarquable. Mais là, c'est là que je constate qu'avec mon expérience de pilote de chasse, que les préparations que suivent les pilotes de chasse, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, en Grande-Bretagne ou ailleurs, et ils suivent tous le même cursus, à savoir qu'ils suivent dans leur formation des stages de survie. Mmh. On leur apprend à comment se comporter lorsqu'on s'injecte dans un territoire hostile, qui fasse beau, mauvais, que ce soit en montagne, que ce soit sur la neige. Hein, et en plus de ces stages de survie, au moment où nous sommes en plein dans les opérations, il y a toujours ce souci de maintenir cette préparation psychologique à une éventualité d'être abattu et d'être obligé d'affronter tout un environnement hostile. D'abord, un environnement hostile sous forme de géographie, et puis aussi, comment se comporter lorsque les forces ennemies sont à votre recherche. Alors, il faut quand même savoir qu'un pilote de chasse qui décolle pour des missions, quelles qu'elles soient, est assis sur un système éjectable qui est un Martin Baker qui équipe énormément d'avions de chasse de par le monde, et que sous le siège du siège éjectable Martin Baker, il y a un survie que le pilote, en s'installant dans l'avion, doit accrocher à une ceinture. Ça veut dire qu'en cas d'éjection, il y a dans une première phase la sortie qui est un petit peu violente, hein, pour laquelle les pilotes de chasse sont aussi entraînés. Il y a séparation siège-pilote. Et ensuite, ouverture du parachute pilote, et le pactage de survie qui est accroché à la ceinture du pilote, ben, le suit jusqu'à l'impact. Alors, il faut dire aussi que l'impact n'est pas très, très doux. Hein.
Sûrement.
On n'arrive pas sur un matelas. Et je suppose que ces pilotes et ces navigateurs qui se sont éjectés dans une zone un peu montagneuse,
oui,
ont dû avoir un atterrissage un peu rude, ce qui a fait qu'il a été dit que le navigateur avait été gravement blessé, qu'il avait beaucoup saigné. Bon, mais je pense qu'il a dû faire, il a fait preuve d'une force morale extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit paquetage? Eh bien, il y a d'abord un système GPS qui permet à celui qui s'est éjecté de savoir où il est, de pouvoir donner des informations aux opérations de sauvetage au moyen d'une petite radio.
Oui.
Il y a aussi une trousse médicale, parce que quand on a des petits bobos, il faut
bien
pouvoir
sûr
se soigner, et y compris des blessures assez graves. Il y a, bien sûr, de quoi survivre sous forme d'une ration alimentaire, de l'eau, bien sûr, un couteau et puis une arme de poing qui permet de se défendre. Donc on n'est pas complètement démuni, mais le plus dur qui reste à faire, c'est-à-dire comment communiquer avec les secours, parce que ceux qui veulent vous ramasser et vous faire prisonnier, bien sûr, ils peuvent être à l'écoute de cette radio. Donc il faut pouvoir utiliser avec parcimonie cette radio pour ne pas être détecté. Et dans un premier temps, ce qui est extrêmement important, c'est de s'éloigner le plus rapidement possible de son point d'impact et le plus loin possible du siège éjectable, et de monter sur un site élevé, de manière à être plus facilement détectable et que les communications radio puissent passer plus facilement. Et ensuite, une fois qu'on a atteint ces points élevés et qu'on a été détecté par les sauveteurs, c'est de se planquer, il faut se cacher, hein, jusqu'au moment où on sait que les secours arrivent. Alors voilà pour la présentation un peu générale de ce qu'il faut.
Non, mais très précise, Jean.
Très, oui.
C'est très précise.
Oui, non, mais c'est très important, hein, parce que c'est du béaba, mais c'est élémentaire, mais c'est vital. Hein. Si on ne respecte pas, si on attend béatement que les secours assis sur son siège éjectable qui est au sol, on sera vite repéré et attrapé.
Je voudrais te poser une question, Jean. Parce que ce qui est certain, c'est que nous avons eu aussi, notamment en ex-Yougoslavie, des pilotes qui ont été abattus et qu'on a dû récupérer aussi par la négociation. Ce qui est certain, c'est que toutes les armées du monde mettent un point d'honneur à récupérer les pilotes. Et c'est ce qu'ont fait les Américains, en l'occurrence, dans des
Absolument.
Conditions difficiles. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Quelle est la déontologie, justement, de ces, je dirais, de l'état-major et de la volonté de récupérer les pilotes?
C'est une déontologie qui est partagée par toutes les armées du monde. Hein. Par fraternité d'armes, je dirais. Hein. On n'a pas le droit d'abandonner un camarade qui est tombé au sol. Donc le souci primordial et la priorité, c'est de récupérer ce pilote abattu le plus rapidement possible, parce que il peut être blessé, comme ça a été le cas du navigateur américain. Et puis c'est sa probabilité de survie dans un environnement un peu rude est relativement limitée du fait que c'est pas en termes de nourriture, c'est très réduit, en termes d'eau, c'est très réduit, et puis en capacité de défense, sinon qu'une arme de poids avec un chargeur de cartouches. Hein.
Ouais.
Mais c'est une déontologie qui existe et que je connais dans tous les échanges que j'ai pu avoir avec les forces aériennes européennes. C'était le souci numéro un, c'est on n'abandonne pas un camarade qui s'est éjecté et qui se retrouve en territoire ennemi. Ça, c'est...
Oui, on l'a vu. Alors, de plus, les Américains ont mis le paquet parce qu'ils ont réussi... Ça a été souligné, Trump l'a dit haut et fort, que bien évidemment, ils l'ont récupéré, qu'il était blessé. Ils ont dû l'acheminer d'ailleurs vers des hôpitaux de la région. Mais ce qui est certain, c'est qu'en termes de matériel, ils ont laissé gros parce qu'ils n'ont pas pu redécoller.
Oui,
et là,
bien.
Visiblement, ils ont pris le pari de détruire le matériel resté sur place.
Bon, ben, j'allais y venir, hein, parce que pour la première opération qui a consisté à récupérer le pilote, qui a été récupéré très rapidement, et ils ont utilisé une vingtaine d'avions, pas plus. Hein. En revanche, la deuxième opération de récupération du navigateur opérateur de système d'armes, il a fallu déployer des moyens immenses, hein, et j'ai compté à peu près 160 appareils avec des bombardiers, des avions de combat, des ravitailleurs, des drones. Parce que les Iraniens étaient au courant qu'il y avait un deuxième membre d'équipage qui traînait dans la nature, et il fallait absolument qu'eux le récupèrent également pour l'exposer. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour montrer la capacité des Américains à pouvoir récupérer un camarade qui est tombé. Alors, c'est une opération remarquable, hein, il faut le reconnaître. Hein. Et cette mission de récupération du pilote a été remarquable dans la mesure où il y a eu une coopération. Alors, je ne sais pas tout, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui relèvent du secret défense qui n'ont pas été dévoilés. Hein, c'est évident. Hein. Mais il a fallu déployer des forces terrestres sous forme de récupération, de capacité de récupération, de combattre des forces ennemies éventuelles, mais aussi des moyens permanents de présence sur zone. Et en plus, la CIA, donc coopération entre la CIA et les forces armées américaines, qui ont réussi à monter une opération
de localisation,
mais de désinformation
aussi.
Pour faire croire, hein, que le pilote en question a été atteint à l'endroit, de monter une opération de bombardement, de mitraillage sur une zone où absolument le pilote n'existait pas, ce qui a entraîné, j'imagine, une grande partie des forces iraniennes à se diriger vers cet endroit-là. Et pendant ce temps-là, ben, ils préparaient une deuxième opération parce qu'ils avaient détecté la position de l'opérateur de système d'armes. Mais il était au milieu des montagnes. Il ne pouvait pas faire poser des avions, on ne peut pas faire poser des avions sur des reliefs. Donc il a fallu trouver un terrain sommairement aménagé, qui était, paraît-il, un ancien terrain qui avait été abandonné, mais qui n'avait pas de piste en dur, c'était du sable, de la terre, et sur lequel il fallait envoyer deux avions de transport de type C-130 Hercules, dans lesquels il y avait deux hélicoptères, dont la mission, alors des hélicoptères lourds, dont la mission était de transporter les forces spéciales vers le lieu de récupération du pilote navigateur, et deux petits hélicoptères légers, hein, qui permettaient de les faire poser à l'endroit où était positionné ce pilote navigateur, pour ensuite revenir sur le terrain où s'étaient posés les deux C-130. Le problème qui s'est posé, hein, c'est qu'il a fallu d'abord, dans un premier temps, sortir les hélicoptères de C-130. Bon, des hélicoptères qu'on transporte par avion, on ne peut pas les transporter avec les pales du rotor de sustentation. Ouais. Il faut les démonter. Bah, donc, ces gens qui ont été déployés sur ce terrain sommairement aménagé ont été obligés de remonter les pales sur place et de faire en sorte que les deux hélicoptères Black Hawk étaient en mesure de redécoller, déposer les forces spéciales, faire décoller les petits hélicoptères qui sont allés récupérer le navigateur. Mais le problème qui s'est posé, c'est qu'ils se sont posés, les C-130 se sont posés sur un terrain où il y avait de la boue, qui était mouillé. Et le C-130, contrairement à notre A400M, sur le train principal ne possède qu'une seule roue de chaque côté. Ce qui fait que sa capacité à manœuvrer sur des terrains complètement embourbés est complètement limitée. Ce qui fait que ils se sont embourbés parce qu'ils étaient très chargés. Hein. Quand ils se sont posés sur ce terrain sommairement aménagé, ils étaient très chargés, donc ils se sont embourbés et incapables de redécoller. Mais je pense qu'il y a eu cette information qui a été communiquée au service, à l'organisme qui était chargé de la récupération. Ils ont dit, bah, écoutez, on est désolé, mais on ne pourra pas repartir. Et dans la foulée, ils ont renvoyé deux autres C-130 pour aller récupérer et les forces spéciales et le navigateur, avec pour mission de détruire les deux C-130 qui ne pouvaient plus décoller et les deux hélicoptères non plus qui ont été laissés sur place. Ils ont estimé que ce n'était plus la peine, hein, le prix d'un homme, ça valait beaucoup plus que le prix de deux C-130 et deux hélicoptères.
Et surtout le prix de la récupération à la face du monde. C'est ouais. ça qui est...
Oui.
C'est aussi une question de prestige.
C'est une question de prestige, absolument. C'est de savoir quel est le prix que un pays est capable de payer pour récupérer un combattant qui se retrouve en difficulté dans un endroit hostile. Eh ben, moi, je dis chapeau. Et je dis un autre chapeau, c'est qui me paraît extrêmement important, que contrairement à ce qui s'est passé, tout le monde se souvient, lorsque les Iraniens ont fait prisonniers des diplomates d'une ambassade américaine pour les emmener en otage en Iran, qu'il y a eu des tentatives de récupération, mais que
ça a raté,
Américains, oui. mes camarades américains que j'ai fréquentés donc à l'école de guerre m'ont tous dit qu'ils étaient extrêmement mécontents de la façon dont ça avait été organisé, et en particulier ça avait été organisé uniquement au niveau politique, hein, et qui n'ont pas laissé vraiment les militaires organiser et exécuter la mission. D'où la catastrophe.
Hein. Ouais.
Alors que cette fois-ci, j'ai clairement la conviction qu'il y a eu une décision de Trump que je trouvais qu'elle était bonne. Il a dit oui, on va y aller, on va les récupérer.
Ensuite, il a laissé les gens s'organiser.
Et après, il a laissé les militaires et la CIA organiser avec un principe de base qui s'appelle une mission des moyens.
Jean, je vais te raconter une petite anecdote pour sourire un peu. Lors de l'organisation des Jeux Olympiques l'an passé en France, je parlais avec un préfet et je dis, écoutez, franchement, bravo, l'État profond, je dirais, la France a su organiser, l'État a su organiser sans bavure les Jeux Olympiques. Et le préfet en question m'a répondu, et sans ministre.
Oui.
Tu vois,
et oui.
C'est ça. C'est qu'il y a un moment, il faut laisser les gens compétents agir.
Il faut laisser les sachants exécuter comme ils savent le faire.
Absolument.
À condition qu'ils aient la certitude que la décision qui a été prise au niveau politique soit vraiment fondée. Alors, c'est ça qui est important. Mais après, une fois que la décision est prise, et j'ai la faiblesse de croire que quand une décision de cette nature est prise au niveau politique, qu'il y a un certain nombre de personnes, dont des militaires, dont j'ai fait partie à un certain moment quand j'étais au cabinet du Premier ministre, qui exposent leur point de vue et qui disent à l'homme politique, attention, avantages, inconvénients, et une fois que les avantages et les inconvénients ont été pesés, bon, il y a une décision politique, une fois qu'elle est prise, de laisser à ceux qui sont capables d'organiser des missions aussi complexes et qui savent le faire, il faut les laisser faire.
Oui, alors c'est le seul moment où Trump a suivi les sachants, parce qu'il a fait quand même un certain nombre de bêtises sur l'Iran, qui aujourd'hui, on voit bien qu'il a atteint quand même une certaine limite et qu'il est ridiculisé par les Iraniens, qui ne sont pas une superpuissance. Mais le problème, il est là. C'est qu'il s'est laissé embourber alors que les militaires lui disent attention, et il est allé de l'avant. Et en réalité, bien sûr, chacun sait qu'il a fait ça sous la pression des Israéliens. Et ça me rappelle une phrase que nous avait dite en commission des affaires étrangères un jour, Bedrine, à propos d'une crise, et il avait laissé tomber d'un bruit sec et métallique. Une nouvelle fois, on voit que Israël a plus d'influence sur les États-Unis que les États-Unis sur Israël.
Oui, c'était un homme de bon sens. Et du reste, j'ai eu l'occasion de le croiser quand il avait quitté ses fonctions. Et il m'avait posé, du reste, c'était à l'occasion de... Je ne sais plus si c'était au CNR ou au Forum pour la France, il était là, présent. Et il m'avait posé une question sur que pensez-vous des combats qui ont lieu dans des zones montagneuses. Et je lui ai répondu d'une manière extrêmement simple. Vous savez, quand on combat des gens qui sont des montagnards, vous êtes sûr de perdre la guerre, parce que eux connaissent le terrain, ils savent comment manœuvrer. Donc, c'était les sachants, là aussi. Mmh. Et là, sur l'Iran, c'est vrai que je crois qu'il y a eu une sous-estimation de l'état de préparation de l'Iran à une éventualité de guerre. Parce que ils savaient depuis le temps qu'ils sont au pouvoir, quoi, ça fait 37 ans de mémoire, hein, ou peut-être plus, ils avaient prévu qu'un jour ou l'autre, à force de tascagasser, comme on dit dans le midi, les gens, qu'un jour ou l'autre, ils allaient lui faire la guerre. Eh ben, ils avaient mis ils avaient préparé des capacités de résistance extraordinaires. Ils avaient constitué des stocks de munitions, des missiles balistiques, des drones d'attaque. On les voit, on a l'impression qu'ils les fabriquent par milliers, est-ce qui est vrai. En particulier le Shahin, hein, ce drone qui fait des ravages en Israël. Des vedettes rapides, hein, qui vont se projeter sur les bateaux. Des drones sous-marins, etc., et j'en passe. Donc, ils savaient très bien qu'ils avaient un niveau de préparation extraordinaire, et ce qui fait que beaucoup ont sous-estimé ces capacités de résistance de l'Iran.
Et une faute politique qu'il faut ajouter, Jean. On te disait, dans les analyses que l'on connaissait du pouvoir sur l'Iran, et c'était répété à satiété un peu partout, je l'ai entendu dans la bouche d'experts, en disant que le grand chef, c'était l'ayatollah, n'est-ce pas, le seul ayatollah. Et on s'est aperçu, ils ont tué l'ayatollah, et on s'est aperçu que le pouvoir était aussi fortement décentralisé, et que de rang subalterne, le combat continue. Là, c'est là où il y a eu, de ma part aussi, une faute d'analyse assez dramatique.
Absolument. Enfin, la responsabilité politique, je te laisse le soin de l'afficher. Hein. Mais effectivement, tu tues un ayatollah, tu en as un deuxième qui arrive, tu tues un chef responsable des forces militaires, paramilitaires, des gardiens de la Révolution. Il y a un autre qui arrive derrière. Mais surtout, c'est comme tu l'as dit, force justement, il y a une décentralisation des niveaux de décision et d'action qui est remarquable.
Donc, tu sais ce que ça me rappelle ? Je vais sans doute te surprendre, mais après la défaite face à la Prusse en 1870-71, on avait mis en place tout un système chargeant notamment les conseils généraux à l'époque de poursuivre la lutte quoi qu'il arrive, c'est-à-dire de décentraliser le commandement et de poursuivre une lutte armée contre un éventuel envahisseur. Et j'ai le sentiment que c'est ce qui s'est passé en Iran. C'est-à-dire que aujourd'hui, on tue certes un chef, peu importe, camarade, un autre sort de l'ombre pour prendre ta place.
Absolument, oui, c'est ça, c'est cette force. Aujourd'hui, il faut quand même constater que le pouvoir n'est plus dans les mains des ayatollahs. Mmh, hein, ce sont les gardiens de la révolution qui décident et qui agissent. Hein, c'est de moi ce que je pense, vu de ma place. Hein.
Je crois que tu as raison. Oui. Je crois que tu as raison, et de manière très décentralisée. Et ça, c'est
absolument
grave. Parce que, je vais te dire, le pouvoir des Pasdaran, pour ne pas les nommer, Trump en est l'un des coupables, parce que quand il a dénoncé l'accord qui avait été mis au point avec la IEA, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc., il a renforcé le parti le plus conservateur, et c'est-à-dire les gardiens de la Révolution. Et Trump en est le responsable premier.
Non, mais non seulement les gardiens de la Révolution, ce sont les plus dangereux.
Bien sûr.
Quand on est capable de massacrer sa propre population, par dizaines de milliers, on ne saura pas de sitôt quel est le chiffre exact, mais c'est quand même, il faut oser flinguer sa propre population comme ils l'ont fait. Moi, je trouve ça incroyable.
Sur ce point précis, je peux t'assurer que certains, lorsqu'ils ont vu que ça tournait, au début, il y a eu des rumeurs, je dis bien des rumeurs, j'en ai pas, je dirais. que, effectivement, la population s'était révoltée parce que c'était contre la vie chère. Et certains disaient, eh bien, c'est normal. Et d'ailleurs, il y a eu quelques déclarations de responsables iraniens qui l'ont dite en disant, j'espère que le gouvernement va en tirer les conséquences car notre population souffre. Et puis ensuite est venue la répression. Et là encore, certains ont dit, tel que nous connaissons le système, la répression va être terrible. Et c'est ce qui s'est passé.
Et oui, et oui. Et en plus, quand on entend le président des États-Unis dire « Sortez dans la rue, l'aide arrive »,
c'est criminel.
Ah oui.
C'est criminel.
Ah oui.
Enfin, c'est, on ne dit pas ces choses pareilles. Si on le dit, il faut le faire.
Mais bien sûr.
Derrière. Hein, parce que je me mets vraiment à la place de... C'est quand même une immense majorité de la population qui en a marre de vivre avec ce régime. Du reste, nos journalistes ont quand même... la prudence de ne pas parler de l'Iran ou de la population iranienne, mais de parler du régime. Hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui est... mais un tel régime, c'est... Vous imaginez qu'on peut faire tomber un régime uniquement avec des bombardements aériens.
C'est une imbécilité totale.
C'est complètement... On sait très bien, en tant que militaire, que quand tu fais une opération... tu commences toujours par une opération aérienne pour aller casser les systèmes de défense, les lieux stratégiques, les ponts, les viaducs, tout ça qui peuvent aider au ravitaillement et au soutien logistique des forces armées. Mais que derrière, hein, tu ne pourras obtenir un effet décisif que uniquement si tu déploies des forces terrestres.
Bien sûr. Hein. Alors
mais,
là,
et Jean, derrière, il faut en accepter le prix. Hein,
parce voilà, que mais là, le prix aurait été extrêmement élevé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je connais un peu l'Iran pour y être passé quelques fois. Il faut savoir que c'est un peuple extrêmement fier et nationaliste. Et que on l'a vu notamment dans la guerre entre l'Irak et l'Iran, c'est des gens qui ont résisté, alors que nous, on avait fait des choix totalement imbéciles et on avait armé Saddam Hussein, hein, il faut quand même se le rappeler.
Je m'en souviens, hein.
Et donc, ils ont tenu bon... parce que c'était attaqué par des étrangers. Et aujourd'hui, je suis intimement convaincu que c'est un peuple, si jamais on met des hommes à terre, ils vont se battre comme des chiens. Et ça va être catastrophique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, M. Trump lui-même ne souhaite pas trop y aller, la fleur au fusil.
Il ne faut pas oublier quand même que... L'Iran, ce sont des Perses, que les Perses, c'est quand même une vieille civilisation
qui a tenu le
haut du pavé dans le monde. Et donc, ce sont des gens qui sont intelligents,
il faut le dire.
Non, mais c'est malheureux quand même.
Et formés.
Et formés. Mais je ne sais pas, franchement, je ne sais pas comment on pourra faire pour... mettre les ayatollahs dehors, mais avec les structures...
C'est pas les bombes.
C'est pas les bombes. Il faut aller avec des troupes au sol.
Tout à fait.
Mais bon, à quel prix, voilà.
À quel prix.
Mais les États-Unis, je pense que ne veulent plus perdre des hommes dans des opérations. Parce que là, j'ai regardé un peu, comme ça, pour histoire de voir, quelles étaient les interventions américaines depuis 75 ans. Je suis remonté à la guerre de Corée, 50-53, le Vietnam, 60-69, la première guerre du Golfe, à laquelle j'ai participé au niveau du Premier ministre, 1991, la Somalie, 93, la Bosnie, 95, le Kosovo, 99, l'Afghanistan, 2001, avec les résultats que l'on connaît, l'Irak, pour renverser Saddam Hussein, malgré nous, on n'était pas d'accord, 2003, la Libye, 2014, pour renverser Kadhafi, c'est pas forcément la meilleure chose qu'on ait faite, le Yémen, en 2017, contre les Houthis, et puis maintenant, aujourd'hui, l'Iran, 2025. Est-ce que tu te rends compte le nombre d'interventions en 75 ans, c'est incroyable.
Hein. Incroyable.
Alors, à ce propos... j'avais déjà, parce que j'ai...
Il est bizarre, relu, Jacques Mier, des fois.
Notamment, quelque chose que Kissinger a dit au sommet de Paris et que je vais livrer à l'antenne parce que ça dit exactement ce que tu viens de dire avec des chiffres atroces. Être l'ennemi de l'Amérique est dangereux, mais être l'ami de l'Amérique est fatal. Tu vois, c'est-à-dire que être l'ennemi de l'Amérique est dangereux, mais être l'ami de l'Amérique est fatal. Et là, on a un peu ça. C'est-à-dire que dans tout ce que tu viens de dire, à chaque fois, les Américains qui ont aidé le Sud-Vietnam, aidé l'Afghanistan, etc., et puis ils ont fait demi-tour, la queue basse.
Chers amis,
En abandonnant lâchement ceux qu'ils avaient
absolument
eu la tentation de soutenir.
Absolument.
Chers amis, vous avez largement, mais largement mangé notre programme.
Ça me fait grand plaisir de t'entendre en grande forme.
Mon général, on aura besoin, là je suis obligé d'arrêter parce que Jacques Mier a aussi des choses à dire. Mais
je comprends.
Absolument besoin, pour la prochaine émission, que vous participiez comme aujourd'hui, parce qu'on a quelque chose d'extrêmement important, les budgets qui sont prévus pour la défense nationale.
À bientôt, Jean.
Allez, à bientôt. Et puis, au liqueur.
Le combat continue, mon général.
Allez, au revoir, Henri.
Au revoir, Jean.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Ça y est, c'est bon.
Jacques Mier, on va reprendre un petit peu. Il y a un problème qui est en train de se poser actuellement, c'est en Alsace. Je voudrais que vous nous expliquiez, parce que vous marquez sur un papier Europe des régions contre les États-nations. Avec la
c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et je voulais dire que...
Je croyais que c'était...
Non, mais vous savez qu'on avait un ami ici, on disait non, tu exagères. En réalité, vient d'être votée à l'Assemblée nationale une collectivité unique de l'Alsace qui est détachée de la région de l'Est.
Ah.
Et donc, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Les Alsaciens ont effectivement, ils parlent l'alsacien, qui est un mélange de français, d'allemand, et qui est une langue, je dirais, un patois, pas un patois, mais une langue des Alsaciens. Hein, il ne s'agit pas de se moquer. Mais en réalité, moi, ça me fait penser à la Lotharingie. Vous savez, c'est-à-dire la création à nouveau de ce qui a existé en 855 dans les partitions après Verdun, le traité de Verdun, hein, j'entends.
Oui, oui.
Et en réalité, ça ne me rappelle pas, mais ça illustre totalement, et Bruxelles applaudit des deux bras, ou des deux mains.
Bien sûr. Hein.
Pourquoi ? Parce que ça signifie que c'est l'Europe des régions.
Des régions, bien sûr.
Et dans le comité des régions... Et la volonté de Bruxelles, c'est de faire monter les régions contre les États-nations. Et cette création de cette Alsace, sui generis, qui me rappelle la Lotharingie, c'est ça. Et qu'on vienne pas me dire que c'est une vue de l'esprit, que c'est une utopie, que je me trompe. Quand vous songez notamment que toutes les régions de France, aujourd'hui, entretiennent, des véritables bureaux à Bruxelles qui sont de véritables petites ambassades. C'est inadmissible.
Je ne me suis pour rien caché.
J'en ai même parlé à Valérie Pécresse, avec laquelle je ne suis pas d'accord sur ce point, et je lui ai dit « Attention, c'est dangereux ». Et en réalité, ce sont souvent les régions qui mènent d'ailleurs des politiques qui sont contraires à celles que veut le gouvernement. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on sait très bien que le gouvernement, il peut dire une chose et le lendemain, son contraire, mais il n'en demeure pas moins que jusqu'à nouvel ordre, l'État-nation, pour moi, c'est le socle de la démocratie.
Tout à fait, absolument. Hein,
et il faut pas en donner. Et donc, cette naissance de l'Alsace en tant qu'entité sui generis, et alors bien sûr, on la qualifie de Alsace européenne,
bien sûr.
C'est la mayonnaise, vous voyez ce que je veux dire. Il faut mettre partout ce terme d'Europe pour pouvoir que ça passe chez les Eurobéas. Et donc, je crois que là, il y a un danger, et je tiens à le dénoncer.
Vous avez tout à fait raison. Dites-moi, le maire, après ces élections municipales...
Le maire, je peux en parler un peu, puisque les auditeurs le savent peut-être. J'ai eu un engagement au sein de ma collectivité Maison Lafitte, qui est la principauté libre, souveraine et, de Maison Lafitte. Pendant 43 ans, j'étais 6 ans dans l'opposition... Et j'ai été 37 ans maire.
Rendez compte.
Et donc.
Les pauvres gens.
Non, pas les pauvres gens, parce que je peux vous dire que ils m'arrêtent dans la rue en me remerciant pour le travail accompli. J'avais décidé de ne pas me présenter. Et donc, c'est, j'avais deux adjoints qui se sont bagarrés un peu. Et celui qui a gagné n'est pas celui que j'aurais souhaité, mais en réalité, le suffrage universel est le seul qui a raison.
Tout à fait.
Et j'ai de bonnes relations, toujours avec l'ancien candidat, mais toujours avec, bien sûr, le nouveau maire avec lequel je communique et j'échange à nouveau fortement. Et donc, je voudrais quand même dire que pourquoi le maire est, pour moi, un mandat extraordinaire. Tout simplement parce que le maire, c'est le premier guichet de l'administration avec un grand A. Nos concitoyens se tournent vers le maire, quoi qu'il arrive, pour, je dirais, essayer de résoudre quelques problèmes. Et j'en ai bien de l'avoir la preuve, parce qu'il y a quelques heures, je suis passé en mairie de Maisons-Laffitte, et sur le parking, il y a un homme qui vient vers moi et qui me dit « Vous êtes le maire ?» Je dis « L'ancien maire, je viens juste de passer la main. » Et qu'est-ce que ce gars ? Il était avec un chien et il dit ben, « Il vient en mairie, vous savez ce qui s'est passé ? » Sa bourgeoise l'a foutu dehors et lui a piqué sa carte bleue et il se retrouvait à la rue. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient voir le maire. Alors je lui dis « Vous savez, j'ai des doutes sérieux que le maire puisse résoudre votre problème, porter plainte et puis il est reparti, etc. » Mais dans l'état actuel des choses, ce mandat de maire, à mon avis, est en danger parce qu'il y a quand même quelques problèmes. Premièrement, vous savez qu'on l'a désargenté. On a désargenté les communes. Ça a été la fameuse phrase de François Baroin lorsque il y a eu la suppression de la taxe d'habitation. Je peux vous dire que nous avons payé à Maisons-Laffitte, nous avons perdu 35% de nos recettes de fonctionnement. Et François Baroin a dit à Macron, « Monsieur le Président, vous avez supprimé un impôt qui ne vous appartenait pas. » Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas demander aux mairies de financer les crèches, de financer les rues, de financer la sécurité, si dans le même temps, on coupe tout l'argent qui peut être... que les communes doivent dépenser. Et donc, aujourd'hui, on a ce mouvement de coupe dans les... ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire des économies, mais ça va plus loin. Il faut savoir également que si on continue comme ça, eh bien, je suis intimement convaincu qu'on a un risque de faire disparaître les mairies, les maires. Et j'ai eu cette formule qui a été reprise quand j'ai diffusé mon communiqué. J'ai eu cette formule en disant, si on continue comme ça, eh bien, les maires, c'est une espèce en voie d'extinction. Et je leur dis, il va leur rester sans doute une chose, la possibilité de déposer des fleurs au monument aux morts, pour les morts pour la France, et aussi pour la démocratie qui est foutue. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que par de multiples lois, le législateur dont j'ai été a donné le pouvoir à l'État profond et à la technocratie. Et donc, à ce titre, il est manifeste qu'il y a eu, de ce côté-là, un transfert des compétences à l'État profond, et que l'État profond gouverne à la place des politiques. Et ça, ça me paraît extrêmement dangereux. Je répète, et j'ai d'ailleurs diffusé ce message à pas mal de mes amis, et certains m'ont dit, tu as tout à fait raison, des maires, des anciens maires, et qui m'ont dit, tu as raison, si ça continue comme ça, on va disparaître. Et ce n'est pas simplement le maire en tant qu'élu qui va disparaître, mais c'est la mairie en tant que, je dirais, c'est la commune en tant que lieu de la démocratie. Dans mon esprit, il y a deux lieux de démocratie. Il y a la commune, même si elle est petite, et il y a la nation. Hein? Ce n'est pas les intercommunalités qui sont des créations artificielles
voilà, tout à fait.
Qui vont supplanter cette adhésion. Et on le voit très bien. Donc, aujourd'hui, la fonction de mandat de maire, ça, alors vous dites ça parce que vous ne serez plus maire, mais mon problème, c'est que j'ai quand même vécu ça. Et que je peux vous dire bon, que j'ai bataillé pour ma ville contre souvent l'État profond, non pas que les préfets soient hostiles aux maires. Ils sont là souvent pour les aider.
Pour les aider.
Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des lois que je parle, qui sont pour moi des lois scélérates, qui sont des lois soviétiques, qui mettent en avant une conception, notamment les lois, toutes les communes de France doivent avoir 25% de logements sociaux, comme si c'était véritablement une vision à donner à tous nos concitoyens. Dans certains endroits, on peut construire des logements. J'en ai construit même avant la loi Guesso, parce que j'estimais que c'était nécessaire. Mais aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est ce qu'il faut faire et avoir une vision de la France à 25% du territoire national pour avoir des logements sociaux. C'est du soviétique, ce n'est rien d'autre. Et c'est la raison pour laquelle je suis vent debout contre ces lois scélérates et que je continuerai à le faire. Je dirai ça dans ma campagne pour les législatives dans laquelle j'irai.
Jacques Mia, en parlant de ça, il y a un auditeur qui vous précède.
Oui, un auditeur, là vraiment, qui parle de Maison Lafitte. Bonjour messieurs, très simple la question. Ma question est pour monsieur Jacques Mia. Sa circonscription n'est-elle pas celle de madame Braun-Pivet?
Et alors, vous savez comment je dis qu'elle est? La réponse est très simple, c'est que madame, cette députée-là, pour moi, elle est née d'un concours de circonstances. Parce que lorsqu'elle a fait ses premières affiches, son suppléant, c'était Macron, et qu'elle a continué comme ça, même si aujourd'hui, elle a une tendance à lui cracher à la figure. Bon, et en réalité... je vais vous dire, je viens d'apprendre par un message d'un de mes amis qu'elle serait candidate maintenant pour la présidentielle. Alors là, je dirais qu'une chose, ça s'appelle l'hubris qui rend fou. Voilà. Et donc, je lui laisse ça. Et puis, il y a tellement d'autres choses. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle doit savoir que je serai candidat contre elle et que je vais gentiment lui dire un certain nombre de vérités qui feront grand plaisir à mes électeurs. Ouais. Voilà. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, je crois qu'il y a un problème. Parce que quoi ? Alors, elle dit que, bien évidemment, elle traite tous les autres candidats de machos. Ah bon ? Mais jusqu'à nouvel ordre, je suis désolé. On ne vote pas pour une femme ou pour un homme. On vote pour le talent. On vote pour le projet. On vote pour les compétences et pas pour le poulailler.
Dites-moi, Jacques Mia.
C'est bien dit.
L'Union européenne est un piège pour la France, on est d'accord, depuis des années.
Dites-moi. On peut. Non, mais il y a un problème majeur qui est en train de se développer actuellement et sur lequel, effectivement, on doit s'interroger. Ce qui est certain, c'est qu'on constate, et on l'a vu notamment, vous avez von der Leyen. Elle est allemande jusqu'au bout,
bien sûr.
Et elle pratique la politique de l'Allemagne.
Bien sûr.
Et l'Allemagne, a, en réalité, aujourd'hui, elle pilote l'Union européenne. Et la France ne fait que suivre, surtout qu'on a un locataire à l'Élysée qui est Eurobéat, n'est-ce pas, et qui est incapable d'avoir une position autonome vis-à-vis de l'Allemagne. La première, là, vous avez vu qu'on s'est battu sur le nucléaire. Fessenheim a été fermé à cause de l'Allemagne. Et on pourrait démultiplier ça, qu'on était emmerdé. Ils voulaient casser EDF, tout simplement, parce qu'il y a eu la volonté de la part de la Commission, actionnée par, bien évidemment, l'Allemagne, de casser un outil prodigieux de la France, qui est, bien sûr, Électricité de France. On voit également que la coopération, notamment en matière d'armement, excusez-moi du peu, mais on voit très bien qu'ils ont la volonté de vouloir piquer notamment les brevets à Dassault, et qu'il a fallu que Helsinki se tape du poing sur la table à y voir Macron en disant « Maintenant, ça suffit. Hein » on voit bien qu'aujourd'hui, l'Allemagne veut tout contrôler, veut tout s'accaparer et que c'est contraire à nos intérêts. L'Union européenne est devenue un piège pour les intérêts
tout
français.
On l'avait
et que si on ne rétablit pas la position de la France à Bruxelles, ça va se retourner contre nous.
Absolument.
Voilà. Et je ne suis pas le seul à m'en rendre compte. Parce que je peux vous dire, il y a un certain nombre de gens qui disent que ça va trop loin et qu'il va falloir y mettre un stop. C'est aussi simple que ça.
Jacques Myard, une France enchaînée dans un monde déchaîné.
Attendez, avant de passer à ça, parce que je vois que vous voulez aller au bout, et voilà, je voudrais dire un mot sur la dissuasion nucléaire. On n'en a pas parlé avec Jean, mais vous avez vu le grand discours qu'a fait notre ami Macron à l'île Longue, à laquelle j'étais passé auparavant, pour rien vous cacher, et j'ai eu le privilège de descendre dans un sous-marin nucléaire pour voir comment c'était. C'est très intéressant. Et donc, pourquoi ce discours est très important? Il est très important parce que vous avez, c'est un discours oxymore à la méthode Macron. D'accord. C'est-à-dire qu'il vous dit une chose et son contraire derrière.
Tout à fait.
Alors, ce qu'il dit tout d'abord, il dit bien évidemment que dans ce discours qui fait 7 pages dactylographiées, d'un discours de 40 minutes, il dit que le monde a changé, ça.
Tout le monde
il
n'a
pas pu changer, il évolue le monde. Et puis, il y a un moment, il faut arrêter de dire que c'est une nouvelle époque. Il y a eu des époques beaucoup plus brutales, etc. Et donc, il considère que la Russie risque d'arriver à Paris avec ses chars, on nous l'a déjà fait.
Oui.
Il justifie que, bien évidemment, il y a un certain nombre d'États, la Chine, la Corée du Nord, le Pakistan, l'Inde, poussent leur volonté de s'armer sur le plan nucléaire. Et donc, il dit, la dissuasion est, je le cite, et doit demeurer un intangible français.
Tout à fait.
Bravo.
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 Mais après.
Dont la décision ultime de mise en œuvre appartient au seul président de la République, comptable devant le peuple français. Je cite ces mots. Et là, comme vous dites, bravo. Toutefois, il met en avant un concept pas très catholique.
Ah non, pas catholique du tout.
Il appelle ça la dissuasion avancée.
Avancée.
Et donc, il dit que la France doit intégrer à ses réflexions les intérêts de nos alliés. La dissuasion avancée offre la possibilité pour les partenaires européens de participer aux exercices de la dissuasion. Il ajoute, la dissuasion avancée pourra enfin prévoir le déploiement de circonstances, d'éléments de force stratégique chez nos alliés. C'est-à-dire, vous savez que les Américains ont, par exemple, en Pologne et en Allemagne, des véhicules et avec des forces atomiques sous contrôle américain. Et donc, il dit, notre défense gagnera du champ et la dissuasion avancée lui offrira une profondeur stratégique nouvelle. Et surtout, il dit qu'il salue le travail avec nos alliés, les premières étapes de la coopération avec nos partenaires commenceront dès cette année et pourront inclure des visites de sites stratégiques et des exercices conjoints. Est-ce que vous imaginez quelle pourra être la position, par exemple, des Allemands forts, sûr d'eux-mêmes et dominateurs, comme aurait dit le général, n'est-ce pas? Et qui vont dire, bon, attendez, là, on voudrait savoir où vous allez taper, hein? On veut bien vous donner, mais on voudrait savoir où vous allez taper. Ça veut dire que quoi? Que ce concept de dissuasion avancée, eh bien, la France sera pied et main liée par, je dirais, les vaticinations et la volonté, parce qu'on aura nous-mêmes
fait
entrer ces gens-là. La dissuasion doit rester un intangible français, oui. Et il ne s'agit pas de dire par avance, et c'est à nous de juger seulement, et pas d'avoir des exercices par avance pour savoir qu'est-ce qu'il y avait. Déjà, il faut savoir que quand on avait notamment les SS-20 en France et qu'on l'a supprimé, c'est parce que les Allemands ont gueulé comme des veaux en disant « vous risquez de taper chez nous ». Et oui, et oui. Mais le problème, c'est que si le Rouski qui veut attaquer vient, il ne doit pas savoir avec ces fous de Gaulois, comment ça va se passer.
Absolument.
Donc ça doit être le secret absolu. Et on ne doit pas en parler, ni avec, je dirais, nos alliés, et surtout, ni avec la presse. Ça doit être le motus et
complet.
Le silence le plus complet. Et là, j'ai cité dans mon papier, Il y a certains chefs qu'on suit d'autant plus aveuglément qu'il faut être aveugle pour les suivre. Je crois que c'est une bonne disposition de M. Macron lui-même. Je répète, il y a certains chefs qu'on suit d'autant plus aveuglément qu'il faut être aveugle pour les suivre. Et donc, pour en avoir parlé avec quelques-uns de mes mentors en politique, ils m'ont dit « ça, c'est un thème qui devra être tranché très sérieusement pour les prochaines élections présidentielles, ouais, parce d'accord. que c'est quelque chose qui, dans laquelle on risque d'être entraîné, malgré nous, par, bien évidemment, des gens qui, aujourd'hui, ont pratiqué l'utopie de A à Z. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il faut bien une défense européenne. C'est évident. Dans la mesure où la défense européenne, ce sont les nations européennes elles-mêmes qui peuvent d'abord, sur le plan conventionnel, être suffisamment fort. Et c'est vrai qu'on a trop longtemps emmagasiné les dividendes de la paix par imbécilité, qu'on est incapable aujourd'hui de remonter en puissance. On peut avoir des réserves, dont acte, mais on a vendu toutes les casernes de Français de Navarre, ce qui est quand même un peu fort de café, et qu'on peut s'en sortir sans doute avec des réserves. Et puis, sur le plan nucléaire, dans le discours de Lille Long, il y a quand même une chose qui est certaine, c'est que le président a annoncé qu'il fallait remonter le nombre de bombes qu'on aurait en stock. Enfin, hein. Mais ce qui est certain, c'est que la dissuasion française doit rester exclusivement sur le contrôle français.
Absolument.
Et on ne va pas s'amuser à, je dirais, discourir des modalités d'emploi avec nos petits alliés, car il y aura toujours des fuites et que ça sera affaibli. Parce que je peux vous dire que vous pouvez compter sur les pop-off, pour, si jamais c'était le cas, pour avoir des accès à un moment
bien
ou
sûr,
à un autre,
bien sûr.
Pour savoir de quoi il en retourne.
Tout à fait.
Donc il faut être vraiment d'une très grande prudence. Et puis, ce qui est certain, c'est qu'il est possible, et ça c'est le général de Gaulle le pensait, que bien évidemment les Américains ne feront pas beaucoup d'efforts pour essayer de venir nous protéger. Le fameux article 5, d'ailleurs il n'est pas automatique, on commence par se consulter et on regarde ce qu'il en est. Mais, moi je suis de ceux, et j'en ai parlé d'ailleurs avec le général Menu, je suis de ceux qui pensent que l'OTAN est une machine américaine de A à Z, et qu'en tout état de cause, les Américains ne quitteront jamais l'OTAN. Pourquoi ? Je ne parle pas de Trump, parce que Trump, il terminera tôt ou tard. Il est tellement grotesque et farfelu que, bien évidemment, on reviendra à des fondamentaux. Et que du côté des Américains, l'OTAN, en dépit de l'existence de la Chine, etc., l'OTAN reste une organisation politique totalement dans la main des Américains. C'est-à-dire que même si les Américains garderont toujours l'OTAN pour avoir la main mise
Absolument,
sur les Européens.
Bien sûr.
Et je peux vous dire, et là, ça ouvre une deuxième élément. Certains disent qu'il faut qu'on produise des armements européens. Alors, vous avez tous vu la presse, ils disent bravo aux Allemands, 100 milliards qu'ils mettent de côté. Le problème, il est très simple, c'est que tous les systèmes d'armes de nos chers petits partenaires allemands, les Polonais, les Belges, etc., sont totalement dans la main des Américains.
Absolument.
C'est-à-dire que tous les avions qu'ils ont achetés des Américains, les Américains peuvent les bloquer s'ils ont décidé de les bloquer. Et ils ont le contrôle, parce que ce sont des systèmes d'armes, vous le savez. Il ne suffit pas d'acheter un avion. Il faut que cet avion soit opérationnel dans un système d'armes.
Tout à fait.
Et donc, et ça, le général Menu pourrait le dire encore mieux que moi. Or, c'est bien ce qui se passe aujourd'hui en Europe, c'est que tous nos petits partenaires européens, ils n'ont de yeux que pour Chimène, et bien sûr, en dehors des rodomontades, et puis on a vu, le summum, c'est notre chère amie italienne. Alors elle, je vais vous dire, elle ne conçoit aucunement de possibilité de s'écarter de l'alliance des États-Unis.
Tout à fait, bien sûr.
Elle a une flotte à Naples qui, je dirais, soutient l'économie locale. Elle a toujours, comme vous le savez, une amitié forte pour les États-Unis, et ça depuis toujours, puisque ce sont les Américains qui ont ramené la mafia pendant la fin de la guerre pour pouvoir déloger les Allemands et Benito. Et que je cite toujours ce que le comte de Chambord disait notamment sur le duc de Savoie qui est devenu ensuite, bien sûr, le roi d'Italie. Le duc de Savoie a pour habitude de terminer une guerre dans l'autre camp qu'il ne l'a commencé.
Oui.
Et ça, nous avons vu que c'est ce qui s'est passé en 14, où les Italiens étaient d'abord avec les Allemands et l'Autriche-Hongrie, et ils ont terminé avec nous. Et puis, bien sûr, pendant la dernière guerre, Benito nous a donné des coups de poignard sur le dos sur l'armée des Alpes, mais il s'est pris une raclée. Il n'en demeure pas moins que les peuples italiens a chassé Benito et a terminé avec les Américains.
Tout à fait.
Mais ils sont pieds et mains liés avec les Américains. Il faut le savoir, dont acte. Et il ne faut pas compter sur eux, sauf pour manger une bonne cuisine italienne. Il ne faut pas trop compter sur la diplomatie italienne. Et on l'a vu encore récemment.
Alors, cette France enchaînée dans un monde déchaîné, Jacques Miard.
Eh bien, c'est un peu ce qui se passe. Je voudrais dire peut-être un mot, pardon de pas vous suivre complètement, vous savez que je suis parfois indocile. Je voudrais dire un mot sur le 1er mai. Je n'ai pas compris qu'on voulait remettre, il y a des tabous et des symboles qu'il ne faut pas, je dirais, recommencer à vouloir dire que le 1er mai n'existe plus. Il y a toujours eu des gens qui travaillent.
Bien sûr.
Et beaucoup. Hein. Moi-même, j'ai toujours été, je suis passé en mairie, même le 1er mai.
Bien
hein.
sûr.
Et ça, c'est évident. Mais c'est une question de vie, de Weltanschauung, pour parler un mot allemand, c'est-à-dire de vision du monde. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, je travaillais avec, notamment à New York, avec des amis allemands, dont un, et qui était d'ailleurs chef de rang au Claridge, et qui me disait, sa femme disait, elle rappelait « Sunday is closed » chez les... Alors, ce n'est plus le cas, hein, en Grande-Bretagne. Mais il y avait une conception, c'est qu'effectivement, le dimanche, on ne travaillait pas. « Sunday is closed », le dimanche, c'est fermé. Eh bien, le 1er mai, c'est un peu ça. Je comprends parfaitement que certains voudraient ouvrir, etc. Mais de là à vouloir ficher un peu la zizanie partout, je ne suis pas sûr que ça soit utile. Alors, j'en viens maintenant à ce que vous voulez que je dise. Une France enchaînée dans un monde déchaîné.
Je reviens quand même sur le 1er mai, Jacques Miard. Et si on laissait les gens faire ce qu'ils veulent?
J'entends bien, mais à ce moment-là, si vous laissez les gens ce qu'ils veulent, vous n'avez plus de rite.
Ça fait rien.
Hein, pas. C'est très important, le rite. Ne faut pas croire. Là, je suis un peu en désaccord avec vous. Parce qu'il faut avoir... Vous savez, je veux dire, moi, je fête Noël. Que vous soyez chrétien ou pas chrétien, c'est
moi,
le solstice d'hiver, et donc c'est le retour de la lumière, Noël, nouvelle lumière. Et donc, je fête Noël, voilà. Et certains vont dire, mais on s'en fout, on n'en a rien à foutre. Ben, je suis désolé, dans certaines communautés, il y a la crèche, et ben, c'est dont acte, c'est une tradition locale, etc.
J'ai presque toujours travaillé le 1er mai, moi.
Bien sûr que vous avez travaillé le 1er mai, ben, c'est bien fait,
ben,
c'est pas pour ça que vous avez été payé double.
Ça, c'est peut-être pas sûr, mais... Je voudrais pas qu'on m'interdise.
Mais on va pas vous l'interdire si vous travaillez de vous-même. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir... Vous savez, je regardais ça, par exemple. Vous avez des fleuristes, c'est la vente des muguets, etc. Moi, je prenais chaque fois un arrêté pour dire le vendeur à la sauvette, il se met loin des fleuristes ouverts.
Ce qui est normal.
Ouverts. Et donc, vous voyez bien qu'il y a des gens qui travaillent. Mais ce n'est pas la peine de lancer un débat là-dessus.
Non, mais on avait autre chose à faire.
Merci. Il faut savoir serrer les problèmes.
Oui, oui, oui.
Vous voyez ce que je veux dire?
Là, vous avez raison.
Et ce n'est pas la peine d'avoir encore quelques emmerdements.
On a autre chose à faire.
On a autre chose à faire que de savoir si c'est ouvert ou pas. Mais vous avez raison. Si les gens veulent travailler, ils travailleront.
Ben,
c'est
voilà.
Aussi simple que ça. Et qu'on ne les emmerde pas trop. Alors, une France enchaînée, eh ben, c'est tout le problème. Parce que cette France enchaînée, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans mon bouquin, elle est enchaînée par tout un tas de choses qui fait qu'elle n'a pas toujours, je dirais, la liberté de pouvoir agir. Et on va y revenir. Elle est d'abord enchaînée, qu'on le veuille ou non, par les idéologies.
Tout à fait.
Les idéologies, c'est quelque chose d'assez dramatique. C'est-à-dire que vous avez tout un peuple qui suit les idéologies. Alors, on en a eu quelques-unes. Alors certaines sont mortes et mortibus. Le communisme en France, mais il fut un temps où le petit peuple, c'était quand même quelqu'un de fort. Et ces idéologies, elles ont parfois évolué. Aujourd'hui, c'est, il me semble qu'il y a une idéologie prégnante, c'est celle de l'homisme, n'est-ce pas ? De voir partout la possibilité qu'effectivement, il y a des... le remplacement de l'idéologie de le remplacement de l'idéologie du communisme, c'est celle de l'homisme, c'est-à-dire on croit dans ce qui est véritablement la défense des droits de l'homme un peu partout. Alors on va lister un mot parce que il est clair que cette vision de l'homisme qui est très en vogue notamment dans les milieux de gauche peut être intéressante, mais on oublie une chose. Nous avons en France, nous avons en Europe une conception des droits de l'homme qui est une conception individuelle et que c'est chaque homme qui doit être porteur de cette liberté, mais ce n'est pas une conception universelle. Vous prenez effectivement certains États et notamment certaines religions, on va prendre l'islam, l'individu n'a pas de liberté individuelle. Il est soumis à l'umma, c'est-à-dire à la communauté des croyants. Et il ne peut pas penser autre chose que ce que lui donne la religion. Alors que chez nous, la liberté individuelle, elle est totale, mais elle n'est pas universelle, elle n'est pas pratiquée par certains États. Et c'est ça que je pense qu'un certain... Alors, certains vont vous dire, mais on doit faire en sorte que notre conception devienne universelle. Ah ben oui, d'accord. Ben c'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille. Parce qu'il y a... comment pourrais-je m'exprimer ? Il y a de multiples freins sociétaux dans certaines sociétés pour que cette vision individuelle très occidentale... Très française, née de la déclaration de l'homme, des droits de l'homme et du citoyen, puisse se perdurer. Alors ça, c'est quelque chose pour moi que, sur lequel j'ai toujours insisté pour dire attention, ne vous méprenez pas et ne soyez pas, je dirais, censeurs pour des sociétés qui font prévaloir la liberté collective sur la liberté individuelle. Alors, il y a des limites. Limites. Vous me direz, c'est ce qui se passe en Iran. Vous allez me dire, vous êtes pour à ce moment-là, vous êtes pour le régime des ayatollahs. À ceci près, c'est que les ayatollahs, à mon avis, passeront et que le peuple iranien viendra. Sûr, et c'est un peuple qui est un grand peuple avec une civilisation que M. Trump voulait renvoyer à l'étage, à l'âge de la pierre. C'est tout simplement parce que Monsieur Trump lui-même vit à l'âge de la pierre. C'est ça le problème. Donc, en réalité, il veut tous les ramener chez lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Et donc, ça me paraît très évident. Puis, il y a un deuxième élément qui me paraît extrêmement difficile également dans, je dirais, la France enchaînée. C'est que c'est les illusions. Alors ça, c'est, je dirais, la France qui se berne d'illusions, n'est-ce pas ? C'est une croyance bien ancrée que tout peut se résoudre par le droit. C'est, n'est-ce pas, le concept que l'état de droit. Ben, l'état de droit, il peut évoluer.
Non, bien sûr.
On le veuille ou non.
Il évolue.
Et il évolue. Et qu'on n'a qu'à regarder un peu dans notre rétroviseur, des choses d'il y a quelques décennies et qui ne sont plus tolérées aujourd'hui. Hein, à juste titre ou pas à juste titre, je ne juge
pas. C'est autre chose, ça, oui.
Et donc, ça me paraît aussi quelque chose sur lequel il faut savoir relativiser et pas se berner d'illusions. Alors, bien sûr, il y avait, je cite toujours à l'antenne, je l'ai déjà cité plusieurs fois, le petit Emmanuel Kant. Lui, il a pensé un monde sans guerre, avec, je dirais, c'est la guerre, la paix perpétuelle. Ouais, ben c'est pas demain la veille. Hein. Ce serait plutôt la guerre perpétuelle.
Tout à fait, voilà. Absolument. D'accord.
Enfin, il faut aussi dire qu'on est parfois aussi enchaîné parce qu'on a une dérive, me semble-t-il, qui est celle des dérives. La loi n'est plus ce qui est voté par le Parlement. La loi est celle qui est interprétée et qui sort de la voix du juge.
Du juge.
Et qu'on est très loin.
Vous avez tout à fait raison.
On est très loin de ce qui est véritablement l'ex, cette l'ex de Carré de Malberg, qui disait très clairement, la loi, elle est dure, reprenons la phrase latine, mais c'est la loi. Eh bien, aujourd'hui, on a des lois qui sont interprétées à outrance, voire même parfois ignorées, par le juge, que ce soit le juge judiciaire, que ce soit le juge constitutionnel, ou que ce soit le juge administratif. Et donc ça, ça me paraît quelque chose d'extrêmement dangereux, et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, je souhaiterais qu'à terme, il y ait une possibilité, avec une réforme de la Constitution, que s'il y a des décisions de justice, des décisions du Conseil constitutionnel, des décisions de la Cour de cassation qui sont contraires à ce qui avait été voté par le Parlement, avec une majorité qualifiée, rétablisse l'interprétation qu'il souhaite avoir et dise au juge « c'est comme ça et pas autrement ». Voilà. Et ça, c'est pour ça que je dénonce. Alors certains disent « c'est pas vrai, c'est la France gouvernée par les juges ». Mais ça, vous savez, il faut quand même regarder. Moi, je connais beaucoup, je sais très bien que c'est ce que m'avait appris. Vous savez, j'ai été l'élève d'un très grand juriste, Gilbert Guillaume, quand j'étais à la direction des affaires juridiques. Et Gilbert Guillaume nous expliquait avec une certaine sérénité qu'au Conseil d'État, un jour ça allait dans ce sens, et puis pour faire mesure, 8 jours après, ça allait dans un autre sens. C'est ce qu'on appelle la politique juridictionnelle. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Donc moi, c'est toujours très relatif, et il ne faut jamais oublier qu'il y a dans la décision de justice la possibilité parfois de dire plus d'un côté, plus de l'autre, tout simplement parce que ce sont des hommes et qui ce sont des gens qui réfléchissent et qui disent il faut l'interpréter comme ça ou l'interpréter d'une autre manière. Mais ce n'est pas la vérité de l'Évangile.
Non.
Je suis désolé. Et donc, je le dis avec une grande forme. Et puis, aujourd'hui, la France enchaînée, c'est bien sûr le millefeuille territorial.
Oui, bien sûr.
Hein, avec, on l'a dit tout à l'heure,
oui,
avec un certain nombre de choses qui se passent au niveau des régions, où on a une France aujourd'hui qui va avec des forces centrifuges. Alors que ce soit l'Alsace, que ce soit la Corse, etc., avec des volontés d'avoir des langues régionales montées au niveau de la langue française, alors que c'est une richesse. Et
absolument,
comme le disait Camus, ma langue, le français, c'est ma patrie.
Absolument.
Et c'est une. Et il faut bien voir une chose. Moi, je veux bien croire que certains Bretons doivent apprendre le breton et dire quelques mots. Moi, je sais dire Guinru, qui veut dire le vin rouge.
Oui.
Vous voyez, parce que faut quand même prendre les mots qui sont utiles, utiles et compréhensibles. Mais que l'on veuille ou non, c'est la force de la France que d'avoir une langue qui est celle comprise par tout le monde. Et contrairement à cet imbécile de Mélenchon, et je pèse mes mots, qui disait qu'il était plus, maintenant, on ne devait plus parler de la langue française, mais on devait parler de la langue de la créolisation, non. Et que si je dis à des, à des étrangers qui veulent devenir français, apprenez notre langue, c'est un sésame, c'est un outil pour votre intégration, et, et Dieu sait qu'il y en a qui réussissent très bien. Donc il faut arrêter, je dirais, de jouer les apprentis sorciers à ce propos. Et donc, et puis il y a aussi une France enchaînée actuellement par la dénatalité. Ça, il est clair que c'est quelque chose. Une France sans enfants, eh bien, qu'on le veuille ou non, mais ce n'est plus la France.
Ah, hein, bien sûr.
Et donc il faut relancer. Et donc en définitive, alors vous allez me dire qu'est-ce que je vois l'horloge qui tourne. On
oui,
a
oui,
encore combien? 2 minutes.
Une minute.
Eh bien, c'est très simple. C'est que dans ce monde déchaîné que nous connaissons, je ne vais pas faire le panégyrique de toutes les crises, eh bien, la France doit retrouver sa souveraineté.
Absolument.
Elle doit retrouver sa souveraineté et elle doit être gouvernée selon des principes ancestraux qui feront qu'elle rétablira ses frontières, qui ne veut pas dire qu'on ne passera pas la frontière, car on a confondu avec Schengen la liberté de circulation et l'absence de contrôle. Elle doit maîtriser les flux migratoires.
Absolument.
Parce que la bombe démographique, c'est l'Afrique. Elle doit assurer sa défense. Elle doit redonner, elle doit réenseigner le fait français. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde se sente, je dirais, totalement français, et on doit réapprendre ça, parce que je constate malheureusement que dans certains clos, il y a...
Jacques Myard,
on va terminer. Il y a encore des choses qui se passent. Pas de sécession, pas de séparatisme.
Quelle est la date de la prochaine émission?
Le 12 mai. Jeudi 12 mai.
Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la France Libre, dirigé par Henri Foucrot, assisté d'Alain Roux, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 14 avril 2026, de 19h30 à 21h, et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.